Nous prenons la parole dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Ok. 2 Corinthiens chapitre 4, nous lisons au premier verset. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Amen. Voilà, ça c'est l'apôtre qui parle des difficultés dans le service de Dieu. Il dit, il y a tant de difficultés que ça peut nous pousser peut-être à entrer dans les cachotteries, à entrer dans la fausseté, à prêcher des choses que nous-mêmes, auxquelles nous-mêmes nous ne croyons plus. Mais lui dit non. Cela, nous refusons les cachotteries honteuses. Verset 2. La fourberie, nous n'altérons pas la parole de Dieu, nous refusons tout cela. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Malgré cela, il demeure dans la vérité. La vérité, c'est aussi accepter les choses telles qu'elles sont. La fausseté, c'est vouloir créer sa propre interprétation des choses pour se sentir à l'aise. Paul dit non, nous restons dans la vérité, nous acceptons les choses telles qu'elles sont, nous ne voulons pas les altérer, nous ne voulons pas altérer la parole de Dieu. On est tenté d'altérer la parole de Dieu pour l'arranger à notre sauce, pour qu'on se sente bien dans le christianisme. Paul dit, même si parfois on se sent mal, on est persécuté, on préfère rester dans la vérité. Et il dit, dans tous les cas, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, si on doit comparer notre prédication à quelqu'un, c'est à cet homme-là qu'on doit comparer notre prédication. On doit comparer notre prédication à Jésus lui-même. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut paraître abattu, pressé, déstabilisé. Mais nous, ce n'est pas nous que nous prêchons pour que notre parole soit déstabilisée. Notre parole restera toujours puissante parce que nous prêchons Jésus, ne nous ne prêchons pas nous-mêmes. Car Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller cette lumière en nous. Paul compare, il nous compare à la création. Il dit que lors de la création, c'était les ténèbres. La Bible dit que la terre était informée vide. Il n'y avait rien, c'était informée vide. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière a été un miracle sur la terre qui a enlevé les ténèbres. Et Paul dit, ce même Dieu a parlé de la même manière chez nous. Nous étions morts et sa lumière a brillé. Cette lumière a été une grande puissance. Et cette puissance, Paul dit, 2 Corinthiens 4, 7, c'est à peu près notre thème de ce soir. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Donc même si ça, c'est une grande puissance que Dieu a mis en nous, ben, c'est quand même dans des vases d'argile que cette puissance est portée. C'est quand même dans des vases d'argile que repose ce trésor. C'est ça la réalité. Ce qui fait que ça nous déstabilise, le fait que nous soyons des vases d'argile. le fait que nous expérimentions notre faiblesse au jour le jour. Mais Paul dit, mais le vase, il est faible, il est d'argile, mais le contenu, c'est un trésor, c'est de l'or. Conséquence, celui qui a mis le contenu va s'occuper aussi du vase, parce qu'il s'intéresse au contenu. Aujourd'hui, peu importe, vous savez, il y a des gens qui cachent des choses. Mais admettons que tu ailles cacher de l'or, ton trésor, dans les toilettes, bien-aimés. Ces toilettes-là, tu vas bien les surveiller. Même si c'est les toilettes. Tu vas cacher de l'or, un grand trésor, dans des baskets pourries, des vieux baskets que tu as gardées encore. Mais c'est là que tu vas cacher ton argent. Je peux te dire que même si c'est des vieux baskets pourries, tu vas surveiller ces baskets-là. Parce que tu sais que ton or est caché là-bas. Alors, le Dieu qui a mis ce trésor en nous, surveille aussi. Le vase et le trésor en même temps, puisque le trésor est dans le vase que nous sommes, vase d'argile. Mais le Dieu qui a mis le trésor veille aussi sur le vase parce qu'il a mis le trésor dedans. Parce que s'il ne voulait pas du vase, il allait mettre le trésor dans un autre vase. C'est parce qu'il tient aussi au vase qu'il a mis le trésor dedans. Et l'apôtre Paul dit, c'est ça notre réalité, c'est ça notre état. Nous avons un grand trésor, la puissance de Dieu, la parole de Dieu, l'amitié avec Dieu. Dieu comme Père, c'est ça notre trésor, mais c'est dans des vases d'argile. Mais ce que doit-on dire malheureusement? La prédication d'aujourd'hui est là pour nous dire heureusement. Parce que si ce trésor n'était pas dans des vases d'argile, on allait encore, comme Adam, vouloir rivaliser avec Dieu. C'est pourquoi nous lisons dans 2 Corinthiens 12, quelle est la réaction de Paul? 2 Corinthiens 12. Il dit à partir du verset 6, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. » À cause de l'excellence de ses révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. L'apôtre nous donne son avis, et c'est l'avis de Dieu. Est-ce que nous devrions dire, malheureusement, le trésor est dans le vase d'argile? L'apôtre dit, non, heureusement, parce que si le trésor n'était pas dans le vase d'argile que nous sommes, si on était de vase physiquement en or, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on monterait dans l'orgueil et on se rébellerait contre Dieu, comme Satan l'a fait avant nous, comme Adam l'a fait avant nous. Donc il y a deux personnes qui l'ont fait avec nous, avant nous. Satan l'a fait, Adam l'a fait. Et Paul dit, c'est pourquoi maintenant je me réjouis des outrages, des contrariétés, des oppositions, des privations. Je me réjouis de tout cela parce que il sait que si Dieu ne permet pas qu'il soit faible, eh bien, il risque de monter dans l'orgueil et s'éloigner de Dieu et mal finir. C'est pourquoi Dieu permet ces choses-là. Il nous connaît. Il sait que notre force personnelle conduira à notre ruine. Alors, il permet la faiblesse afin que seule sa gloire soit manifestée. C'est pourquoi l'apôtre, je reviens dans 2 Corinthiens 4, il dit au verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. » Vous savez, quand on lit les psaumes, on a l'impression de dire, on a envie de dire, mais tiens, David, qu'est-ce qu'il dit là? C'est comme s'il était tout le temps attaqué, tout le temps attaqué. Oh Dieu, délivre-moi, Dieu, délivre-moi, Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Ils sont comme des chiens, ils rôdent autour de moi, les taureaux de Bazan. David se plaignait tout le temps, d'être attaqué. Et l'apôtre confirme ça. Il dit, nous sommes pressés de toutes parts. Alors aujourd'hui, le chrétien ne veut pas vivre ça. Que ce soit l'Ancien Testament, un grand de l'Ancien Testament nous l'enseigne, qu'il était tout le temps attaqué. Lisez les psaumes. Tout le temps, Dieu délivre-moi de mes ennemis. Ils sont là en train de faire ha-ha-ha autour de la ville. Ils tournent comme des chiens. Nous lisons le Nouveau Testament. Paul dit, nous sommes pressés de toutes parts. C'est le contexte que Dieu veut pour nous. Que nous soyons pressés de toutes parts, afin que nous demeurions dans la faiblesse. C'est ce qu'il veut, parce qu'il connaît le trésor qu'il a mis en nous. Lui-même. La Bible dit dans Jacques, l'Esprit, Dieu aime à la jalousie l'Esprit qu'il a mis en nous. Il connaît le trésor. Bien-aimé, vous vous imaginez. Il y a des moments dans les prières qu'on fait des délivrances. On chasse le diable. Lui-même, il se manifeste et on le chasse au nom de Jésus. Vous imaginez ce que c'est que le diable? C'est lui qui est plus fort que la CIA, plus fort que le gouvernement, plus fort. C'est lui qui, il est plus fort, c'est lui qui installe les armées. C'est lui qui est avec Hitler. Vous vous imaginez un simple chrétien comme moi et comme toi chasser le diable comme ça? Et il part. Et il ne peut rien contre toi. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe quelle puissance que nous avons. Nous avons une très, très grande puissance. Une très grande puissance. Je vous ai raconté l'histoire d'un chrétien qui a accompagné, je ne sais pas si en le sachant ou sans le savoir, il accompagnait un ami. Mais c'était dans la maison d'un féticheur. Et ce féticheur-là, c'est quelqu'un qui était très fort dans son domaine, à tel point qu'il préparait des bagues pour les gens, des bagues magiques. Il préparait toutes sortes d'objets magiques à donner aux gens pour avoir des pouvoirs. Et dès que le chrétien, qui était un chrétien simple d'ailleurs, la preuve qu'il n'était pas un chrétien très engagé, c'est qu'il est entré dans cette maison-là des féticheurs, accompagné son ami. Eh bien, ce chrétien-là, dès qu'il est entré dans cette maison-là du féticheur, eh bien, toutes les bouteilles du féticheur se sont cassées. Les puissances magiques qu'il y avait dans les bagues se sont évaporées. Et il y a eu comme un tremblement de terre, une tempête dans la maison du féticheur. Rien que ce chrétien-là qui n'était pas très engagé, la preuve, il est entré dans cette maison-là. Mais bien aimé, malheureusement, puisqu'il a commis un péché en entrant dans cette maison, en sortant, les démons qui étaient chassés sont entrés en lui-même. Malheureusement. Mais cela nous montre la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. La puissance qu'il y a dans le chrétien. C'est une très grande puissance. Bien-aimé, la puissance qu'il y a dans la parole. La parole, la Bible dit, a créé le monde. Vous vous imaginez que cette parole nous a été confiée? Ça a créé le monde. Donc ça peut changer les situations. On m'a raconté l'histoire d'un chrétien qui devait vendre une ferme. Et donc il a pris un crédit relais. Un crédit relais, c'est un crédit qu'on prend en attendant de vendre sa propre maison. Et au moment où la banque voulait commencer à prendre les traites prévues, celui qui devait acheter la ferme dit, je n'achète plus. Donc le frère était coincé complètement. Mais il a prié, vous savez quoi? Son dossier a disparu à la banque, donc on lui a donné encore un mois de plus de réflexion, un mois de plus pour qu'il reconstitue le dossier. Bien-aimé, c'est ça la puissance que nous avons. La puissance qui peut créer, qui peut transformer les situations. On nous l'a confié à nous les petits. Jésus-Christ dans Matthieu 28, il a dit, tout pouvoir m'est donné, tout pouvoir m'est donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tout pouvoir m'est donné, moi aussi je vous donne le même pouvoir pour faire de toutes les nations des disciples. Souvenez-vous comment avant on s'est moqué des gens qui priaient. Certains d'entre nous étaient contre les gens qui priaient. Ils les critiquaient. Mais aujourd'hui eux-mêmes ils prient.
Mais c'est ça cette puissance que nous avons. La puissance de changer quelqu'un d'opinion, il s'opposait, maintenant il est pour. C'est ça la puissance que nous avons. Mais c'est une très grande puissance, bien-aimé. Une très très grande puissance, parce que ces gens-là le font sans intérêt, parce que on peut comprendre qu'on passe du Real de Madrid à Barcelone, parce qu'on on va te payer beaucoup plus que l'on passe, du Parti Socialiste à l'UMP, parce qu'on te propose un poste. On peut comprendre ça, c'est l'intérêt qui peut faire changer les gens d'opinion comme ça. Mais là, on fait changer quelqu'un d'opinion tout en perdant. Donc il perd sa richesse, il perd, mais il change quand même d'opinion. Il perd son honneur, mais il change quand même d'opinion. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Une très, très grande puissance. Une puissance qui peut guérir les malades. Une puissance, bien-aimée, qui amène les gens au ciel. C'est une très grande puissance que nous avons. Mais cette puissance, si Dieu n'avait pas permis qu'on soit dans la faiblesse, on l'aurait considéré comme étant notre puissance à nous et on se serait rebellé à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous maintient dans la faiblesse, afin que la gloire revienne à lui tout seul. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi j'aime la faiblesse, afin que la puissance de Dieu se manifeste. Mais qui aujourd'hui aime la faiblesse? Nous tous, nous voulons être forts. Mais Dieu nous dit, attention, votre force, la force que vous cherchez, vous sentir vous-même fort, vous mènera à la perte. Acceptez d'être faible tel que moi je le veux. Moi, bien aimé, je ne suis pas en train de parler de la faiblesse, de l'impureté. La faiblesse de l'impureté, c'est les tentations, c'est la chair qui est comme ça. Mais la faiblesse de Dieu, c'est la faiblesse, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu es incapable. Tu as l'impression que tu ne peux pas vraiment le servir comme il faut. Tu as l'impression que tu es petit. Mais tu as l'impression que les forces des ténèbres sont plus intenses, sont plus fortes que toi-même. Ben, c'est ça la faiblesse de Dieu, voulue par Dieu. Tu as l'impression, comme Paul dit, nous sommes pressés de toutes parts. Nous sommes écrasés. Mais il dit à chaque fois, non abattus. Nous sommes ébranlés, mais non atteints. Et ça donne une impression de faiblesse. Ça crée une impression d'insécurité et de faiblesse. Mais qui veut cette faiblesse aujourd'hui? Personne. En refusant cette faiblesse, la conséquence c'est quoi? Je vais donner quelques conséquences. La conséquence, c'est qu'on va altérer la parole de Dieu. On va altérer la vérité. On va vouloir créer un évangile qui refuse la faiblesse. On va appeler ça évangile de prospérité, évangile de non-maladie. Il y a des gens qui disent, quand on est chrétien, on ne peut plus tomber malade. Donc, il y a certaines églises, quand tu tombes malade et que surtout tu es hospitalisé, ça passe mal. C'est comme si tu as un problème dans ta vie. Et je connais mon beau-frère qui est médecin. Il a, suivi pendant des mois un pasteur. Et ce pasteur-là dirige une église de beaucoup de personnes en Afrique. Et ce pasteur disait à mon beau-frère, je me repens de tout ce que j'ai prêché parce que je suis en train de vivre quelque chose alors que j'ai prêché le contraire. Il ne voulait pas tout dire, mais ça voulait tout dire. Donc ça devait être les gens des pasteurs qui ont prêché que la maladie n'était pas de Dieu et tout ainsi de suite, alors que dans la Bible, on voit bien que Paul recommande à Timothée de prendre un peu de vin à cause de ses problèmes d'estomac. Dans la Bible, on voit bien que Paul parle à quelqu'un, il dit, j'ai laissé Trophime malade, je crois à Éphèse. Donc, on voit bien qu'ils avaient prié pour lui, mais il l'a laissé quand même malade, donc c'est qu'il n'était pas encore guéri. Donc, on voit bien qu'il y avait des situations de faiblesse. Il y a des situations de faiblesse dans le Nouveau Testament. Et ce pasteur-là, moi j'ai dit à mon beau-frère, mais est-ce qu'il a eu le courage d'aller prendre le micro devant son assemblée et de se repentir? Parce que quand les frères venaient le visiter, il se cachait. Il fallait que le docteur le protège pour que les frères ne le voient pas, parce qu'il perdait un peu parfois la mémoire. Donc, par rapport à tout ce qu'il a prêché sur la maladie, il avait honte. Mais c'est simple, on passe devant Et on se répand. Je ne suis pas en train de dire que Dieu aime la maladie. Je dis simplement que c'est quelque chose qui existe et que nous ne devons pas vous créer des faux évangiles, des fausses théories pour l'éviter, mais plutôt traiter ça à la lumière du vrai évangile. L'apôtre Paul a dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, les gens disent quoi? Je ne suis pas heureux dans mon mariage. Et c'est des pasteurs, ils disent, ça, ce n'est pas la femme du ministère. Il me faut la femme du ministère. Alors, pourquoi ils altèrent la parole de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la facilité qu'ils attendaient. Ils pensaient que la vie serait telle qu'ils voient dans le feu de l'amour ou bien dans les frères Asdod ou Ascot, tout ça. Donc, ils pensaient que la vie serait comme ça. Et comme ils se rendent compte que non, tiens, oh, je croyais qu'en avoir fini avec mes problèmes en me mariant, mais ça commence. Et on cherche la facilité et on veut autoriser le divorce. Ah non, frère, le divorce est permis dans certaines conditions. Il crée des choses pour autoriser le divorce. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la facilité. On refuse la faiblesse. Dieu nous met dans la faiblesse pour que nous puissions l'honorer, pour que nous puissions réaliser que la puissance vient de lui. Nous, on refuse. Donc, la première conséquence, c'est qu'on va chercher à altérer la parole de Dieu. On va chercher à changer la parole de Dieu. On va chercher. Il y en a parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de délivrance, chasser les démons. Ah, les esprits, ça n'existe pas. Donc, tout simplement parce qu'ils disent, ah, si ça existe, donc il faudrait prier contre eux. Moi, je n'ai pas le temps. Je préfère prêcher comme un professeur à l'université. Je viens, je donne mon cours, je rentre chez moi, je dors. Hein. Aller encore commencer à prier pour la délivrance des gens jusqu'à minuit, tout ça. Ou il y en a, parce qu'ils ne veulent pas trop souffrir, non, une délivrance ne doit durer que 5 minutes. Comme ça, en 5 minutes, si ça ne finit pas, frère, vérifie ta vie, sœur, vérifie ta vie, allez, au revoir, à plus tard. Non. Donc, à chaque fois que l'homme veut sortir de la faiblesse, première conséquence, il altère la parole de Dieu. Parce qu'il prétend vivre selon cette parole. Les gens vont lui dire, mais ce que tu fais là n'est pas selon la parole. Donc, il doit chercher d'abord à altérer la parole de Dieu pour justifier aux gens sa vie actuelle. Bien-aimé, attention, n'altérons pas la parole de Dieu. Il y en a qui vont dire, mais Dieu a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous serons les premiers et non les derniers. Alors, il faut que je sois riche, il faut que je sois riche. Mais Dieu n'a pas dit que ça. Il a dit aussi, avec Paul, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Donc, il y a des versets aussi qui disent autre chose, de sorte que la Bible est un tout qui ne se contredit pas, mais qui se complète. Bien-aimé, c'est ça la réalité. Première conséquence, on va chercher à altérer la parole de Dieu. Deuxième conséquence, bien-aimé, c'est la perte de confiance vis-à-vis de Dieu. Quand on réagit mal vis-à-vis de la faiblesse, on commence à douter de Dieu. On dit, mais comment il permet ça? Comment il permet que 6 millions de Juifs meurent? Comment permet-il que un enfant innocent meure dans un attentat? Comment? Il y a des choses qu'on ne comprend pas, bien-aimé. Et je fais partie des gens qui ont le cœur troublé pour ces choses-là. Quand j'apprends qu'une femme a poignardé sa fille, moi j'ai envie, bien-aimé, sincèrement, j'ai envie de dire, Seigneur, je ne veux plus de cette vie-là, amène-moi au ciel. Ça me fait trop mal d'apprendre de telles nouvelles, qu'une femme donne un coup de poignard à sa femme, à sa fille. Mais je me dis, Dieu permet, ça c'est mon échec personnel, je n'arrive pas à comprendre tout ça, c'est ma faiblesse, mais Dieu contrôle tout. Il a quand même, c'est lui qui a les manettes. Ça ne lui échappe pas. La Bible l'appelle dans Daniel 2, 21, c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est vrai que je suis dépassé. C'est vrai que ça me fait mal. C'est vrai que je me sens faible par rapport à ce que je vois. Mais Dieu, lui, n'est pas faible. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, afin que la puissance de Dieu soit clairement manifestée, qu'elle soit reconnue comme étant de lui. Nous sommes pressés de toutes parts, mais quelle est notre réaction par rapport à cette pression? Est-ce que nous allons pour autant abandonner notre foi? Bien-aimés, pourquoi nous allons oublier tous les exploits que Dieu a fait dans nos vies juste parce que il y a eu des choses qu'on ne comprend pas et qui nous dépassent? Nous allons oublier ce que nous étions avant. Pourquoi? Il y a un chant chrétien qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en comptant que le nombre est très grand. » Bien-aimé, il y a des années où il y a juste 6 avions qui tombent. Il y a une année, je crois 2007, il y a eu 6 avions qui sont tombés. 6 avions. Et vous savez combien sont montés et atterris? Peut-être plus de 10 000. Il y a eu plus de 10 000 vols. Je crois même 10 000, c'est petit. Il y a eu peut-être plus de 10 000 vols. Mais puisque 6 avions sont tombés, vous avez entendu le bruit. Cette année-là, on ne parlait que de ça, mais quand tu fais le nombre, ça fait 6 avions. Mais compte le nombre de voitures qui ont fait des accidents par rapport au nombre de voitures qui existent. Donc, eux-mêmes, ils reconnaissent que l'avion reste le moyen le plus sûr. Bien-aimés, pourquoi nous ne sommes pas plus sages que les gens du monde? Et Jésus l'a dit, les gens de la lumière sont moins sages que les gens du monde. Eux, ils reconnaissent que l'avion reste le moyen le plus sûr, malgré le fait que si les avions tombent, malgré le bruit qui sort après cela. Mais nous, à cause de quelques états de dépression, de faiblesse, où on est agité, où on est déstabilisé, mais on veut perdre notre foi. On oublie tout ce que Dieu a fait de grand. Faisons l'exercice de compter ce que Dieu a fait. Faisons cet exercice que nous propose ce chant-là. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Faisons cet exercice-là. Ne perdons pas notre foi juste à cause de faiblesses, parfois qui semblent persistantes. Mais Dieu a quand même le contrôle. N'oublions jamais cela. C'est Dieu qui a le contrôle. Dieu a le contrôle. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Plein de choses qui nous échappent. Mais qu'une vérité ne nous échappe pas, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle la situation. Il contrôle la situation. Restons accrochés. Ne perdons pas notre foi, bien-aimés. La foi se mesure aussi dans le temps. Ce n'est pas une foi qui se mesure selon les événements seulement, mais dans le temps aussi. Et il y a aussi une sensation d'inutilité qui peut être la conséquence de faiblesse ou bien d'une sorte d'impuissance, d'incapacité. Et on se dit, je suis inutile. Et puisque je suis inutile, je ne sers à rien dans ce monde. On se néglige. Ou alors, on entre dans ce qu'on appelle la paranoïa. On soupçonne tout le monde de vouloir nous faire du mal ou bien de nous rabaisser. Et on commence à se perturber soi-même parce qu'on réagit mal vis-à-vis de la faiblesse. Bien-aimés, je suis d'accord que lorsque la Bible dit « Tout pouvoir m'est donné, voici je vous envoie faire de toutes les nations des disciples », Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que nous sommes le Fils du Dieu très haut. C'est normal que dans la faiblesse, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, je suis Fils du très haut. Pourquoi je vis de telles situations? Pourquoi telle situation m'arrive? D'ailleurs, les apôtres, quand ils n'ont pas pu délivrer un enfant, quand Jésus est venu, ils ont dit à Jésus, mais on ne comprend pas pourquoi on n'a pas pu délivrer cet enfant. Pourquoi le démon n'est pas parti? Et Jésus a donné l'explication. Je suis d'accord, quand on lit toutes les promesses qui sont données aux enfants de Dieu, je suis d'accord qu'on ne comprenne pas quand les faiblesses viennent, qu'on se pose des questions. Mais sachons que les réponses sont aussi encore dans la Bible. La même Bible qui donne les promesses, la même Bible donne les réponses. Et nous avons une des réponses avec Paul dans 2 Corinthiens 12. Il dit clairement, la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Il le dit clairement. Il le dit aussi, nous portons ces trésors dans des vases d'argile. N'oublions pas ça. nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Ça ne fait pas de nous des gens faibles, ça fait de nous des gens forts, mais par la puissance de Dieu. Contrairement à ce que nous voulons être forts, mais par nous-mêmes ou par ce que Dieu a mis en nous, que nous soyons comme forts indépendamment de Dieu. C'est ce que nous voulons. Mais Dieu nous maintient dans des vases d'argile, comme vases d'argile, afin que lui seul soit fort. Que seul l'or qui est dans le vase, qui ait de l'importance, pas le vase lui-même. C'est ça le but de Dieu. Et ça sera toujours son but jusqu'au bout, parce que ça a été le péché d'Adam, de vouloir se croire autant fort que Dieu, aussi fort que Dieu. C'est ça, et Dieu veut nous éviter ce péché d'origine. Et c'est pourquoi il nous laisse vase d'argile. Et il nous laissera toujours. Vous vous imaginez que Paul écrit toutes ces choses étant vieux. C'est-à-dire qu'il a connu, il a fait des exploits et des exploits avec Dieu. Parfois, on croit qu'arrivé à un certain stade de ministère, on ne sentira plus la faiblesse. Arrivé à 40 ans de ministère, on sera toujours fort. C'est-à-dire qu'on aura une telle maturité, une telle expérience que oh, la faiblesse sera un vieux souvenir. Non, c'est le même Paul qui a fait des exploits, qui a fait des choses, qui a prêché, qui a eu des révélations. Il le dit dans 2 Corinthiens 12. Il a dit « Les révélations que Dieu m'a données sont tellement puissantes qu'il ne pouvait pas permettre que je sois fort normalement. Il fallait qu'il me garde dans la faiblesse parce que sinon j'allais tomber dans l'orgueil. » Dieu lui a donné des révélations puissantes. Et quand Dieu utilise un homme, il fait des choses à travers cet homme. Même cet homme-là, parfois, ne se rend pas compte. C'est normal que Dieu, après, dise, fasse tout pour qu'on reste à des vases d'argile. Alors, bien-aimé, ne t'étonne pas. Toi, tu es chrétien. C'est vrai que c'est étonnant, après, que tu te sentes faible. Mais ne t'étonne pas, parce que Dieu te le dit, c'est pour que tu restes vase d'argile et que seul l'or en toi soit valorisé. Et deuxièmement, Ne tombe pas dans cette conséquence qu'on vient de dire pour dire « Je suis inutile, je ne sers à rien ». Non, oui, tu es un vase d'argile, tu es rien, mais ce qui est en toi est toujours puissant. Donc il ne faut pas que maintenant cet état-là te conduise à négliger maintenant ce que Dieu a mis en toi. Néglige-toi, toi, d'accord, oui, mais ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? L'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? La parole de Dieu. Bien-aimé. Il y a des moments, je suis chez moi à la maison, je me dis « Mais oui, mais... » Vraiment, le Seigneur est tout puissant parce que telle chose qui s'est passée, telle délivrance qui s'est passée, moi je ne savais même pas quoi dire. J'ai dit une phrase, voilà la chose. C'est... Parfois tu parles avec quelqu'un, une parole de connaissance vient, tu lui dis telle chose s'est passée dans tel jour. La personne dit oui, ça s'est passé comme ça. Mais tu dis, mais comment moi j'aurais pas pu penser à de telles choses? C'est impossible. La puissance de Dieu est là, mais tu restes vase d'argile. Tu restes vase d'argile. Nous sommes comme quelqu'un qui vient de monter dans un avion, il veut remonter tout seul après, voir les nuages. Il va sauter, il va se fatiguer. Nous sommes comme de telles personnes. Dieu t'a fait monter, mais quand tu essayes de le refaire encore tout seul, ça ne marche pas. Dieu veut que tu remontes toujours avec lui. Nous sommes dans des vases, nous sommes des vases d'argile. N'oublions pas cela. Alors, que ça ne nous amène pas à nous dire « Je suis inutile, je ne sers à rien, je dors. » Non, c'est vrai, je suis inutile par moi-même, mais je suis utile entre les mains de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Je suis utile entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que nous devons continuer à confesser, même si nous sommes fatigués, même si nous n'arrivons pas à prier. Tu vas dire, c'est moi qui suis fatigué, mais l'Esprit de Dieu en moi n'est pas fatigué. C'est très important. Dieu veut que je me rende compte que je suis inutile, mais lui en moi n'est pas inutile. Il est tout puissant. Il est glorieux. Une dernière conséquence que j'avais retenue, c'est qu'il ne faut pas que la prise de conscience de la faiblesse nous amène à vouloir prouver par nos propres moyens qu'on est fort. C'est une autre tentation qui vient. Lorsqu'on se sent faible, on veut s'auto-prouver qu'on est fort ou éprouver aux autres qu'on est fort. Alors on va commencer à faire les choses par la chair. Ce n'est pas bon. Lorsqu'on est faible, glorifions Dieu de cette faiblesse et disons-lui, Seigneur, nous croyons que ta puissance est plus forte que cette faiblesse. Tu permets cette faiblesse pour prouver que ta puissance est plus forte que la faiblesse. C'est très important. C'est comme si Dieu voulait de plus en plus de grands réservoirs. Plus le trou est grand, plus lui est content de remplir ce trou. Plus on est faible, plus Dieu est content de manifester sa puissance qui peut dépasser cette faiblesse. Nous, notre problème, c'est quoi? Nous voulons que Dieu enlève la faiblesse. Dieu dit non, moi je garde la faiblesse, mais je donne une puissance qui submerge la faiblesse, qui engloutit la faiblesse. C'est pourquoi la Bible dit, la mort a été engloutie dans la résurrection. La Bible ne dit pas que la mort a été éliminée, mais elle a été engloutie dans la victoire. Nous, on veut que ça s'élimine. Non, ça ne s'éliminera pas tant qu'on est sur, il n'y a pas eu le jugement dernier. Notre corps, ce qu'on appelle la chair, va continuer à être faible et par contre, l'Esprit de Dieu est tout puissant pour dominer cette faiblesse-là. Alors nous nous torturons par la chair à vouloir en finir avec cette faiblesse et ça ne marche pas. Plus on veut en finir avec cette faiblesse, plus on devient faible. Maintenant, la deuxième faiblesse dans laquelle nous tombons, c'est une faiblesse qui nous amène dans le péché. Alors que la faiblesse de Dieu ne nous amenait pas dans le péché. Mais quand on veut la combattre par nos propres forces, la faiblesse de Dieu, finalement nous tombons dans une faiblesse autre, mais celle-là nous amène dans le péché. Plus tu veux par tes propres forces vaincre la colère, qui ne t'amenait pas dans le péché, mais qui t'embêtait, tu sens que la colère monte et tu te dis, mais je croyais que j'avais fini avec cette histoire. Maintenant, je vais essayer de me calmer, être sage, éviter telle chose. Ah, tu commences à prendre des résolutions personnelles, humaines. Et quand le problème vient, c'est là que tu te fâches. Mais cette fois-ci, tu en arrives à pécher parce que tu as refusé la faiblesse de Dieu et tu as fini par recevoir la faiblesse de l'homme qui amène dans le péché. Or, la faiblesse de Dieu ne donne qu'un sentiment d'insécurité personnelle sans pour autant t'amener dans le péché. Tu as l'impression d'être dans l'insécurité, d'être dans l'incapacité, d'être dans l'inutilité, mais tu restes pur, alors que la faiblesse de l'homme t'amènera à pécher. Alors en voulant combattre la faiblesse voulue de Dieu, par tes propres efforts, tu tombes dans la faiblesse non voulue de Dieu et qui t'amène dans le péché. C'est ça la réalité, bien-aimé. Je connais des gens qui se sont dit, non, je vais lui prouver. Il y a des gens, je reçois dans le bureau, et elle s'est dit, non, je vais lui prouver qu'il n'y a plus rien entre lui et moi, et je vais le rencontrer, il n'y aura pas de problème. Mais ça, c'est l'orgueil. Donc, on veut combattre la faiblesse par l'orgueil. Et finalement, tu vas apprendre que, tiens, finalement, la personne est tombée. Pourquoi? Parce qu'il a voulu combattre la faiblesse humaine par ses propres efforts. Attention. Et ça nous amène dans une faiblesse humaine qui nous crée le péché, qui, lui, elle, crée le péché. Ne cherchons pas à nous battre par nos propres efforts. Et c'est ce qui fait qu'on va se choisir soi-même nos pasteurs, on va se choisir soi-même, nos églises, on va se choisir des choses en fonction, parce qu'on veut se battre par nous-mêmes. On refuse la faiblesse de Dieu qui nous donne l'impression d'inutilité, d'insécurité, d'inachèvement. Et finalement, on par les propres efforts, on veut se sentir qu'on a un appel, on veut prouver qu'on sait prêcher, on veut prouver qu'on sait organiser, on veut prouver qu'on sait s'occuper des enfants. Et finalement, en voulant se battre par ses propres efforts pour prouver qu'on a un appel, qu'on a un ministère, qu'on peut faire ceci ou cela, nous tombons maintenant dans la vraie faiblesse satanique qui nous fait échouer tout ce qu'on entreprend. Et Dieu dit, tu vois, tu as échoué. Humilie-toi, accepte la faiblesse que moi je veux, ce qui te donne l'impression d'insécurité, d'inachèvement, d'inutilité, mais qui ne te fait pas pécher. Parce qu'après cette faiblesse, il y a une grande puissance. Au moins, quand cette grande puissance vient, tu ne vas pas t'enorgueillir pour dire « c'était moi », parce que tu te souviendras de combien tu étais faible autrefois. C'est pourquoi je permets cela, dit le Seigneur. Bien-aimés, faisons comme Paul, réjouissons-nous de nos faiblesses au lieu de chercher à les combattre humainement et tomber dans de mauvaises faiblesses qui, celles-là, amènent au péché. Quand on se sent inachevé, confessons que nous sommes achevés en Jésus-Christ. Quand on se sent inutile, confessons que Jésus en nous est utile. Même si les autres ne nous élèvent pas, ne reconnaissent pas un talent chez nous, nous reconnaissons le talent de Jésus qui est en nous, qui transforme notre vie et qui est mort à la croix pour sauver les pécheurs. Reconnaissons le talent de Jésus en nous. C'est très important. Et Jésus nous a montré l'exemple, bien-aimés. Là où Jésus a été le plus grand, c'est à la croix. Quand Jésus parlait à Jean et aux autres, il disait, maintenant l'heure de ma gloire est venue. Et quelque part, Jean explique cette gloire. La gloire de Jésus, c'était de mourir à la croix pour les pécheurs. C'est d'être faible pour Dieu. C'était d'être faible pour Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens refusent la faiblesse. Je vous prêche ça, c'est vrai que ce n'est pas aisé, mais discernons la faiblesse permise par Dieu et la faiblesse liée au péché. Du moment que c'est une faiblesse liée à l'insécurité, à l'incapacité, à une sorte d'inutilité, acceptons-la. Refusons toute faiblesse liée au péché, mais acceptons les faiblesses liées à l'incapacité, à l'inachèvement, à ces choses que Dieu seul peut faire, et Dieu fera quoi. Et même il y a des moments où on se sent même faible par rapport au péché, mais on n'est pas tombé. 1 Corinthiens 10 le dit, aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-dessus de vos forces. Donc il y a des moments où on se sentira comme en insécurité. Tant qu'on n'est pas tombé, ne nous créons pas du mouron. Ne nous embêtons pas. Tant qu'on n'est pas tombé, recommandons-nous au Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Tant que tu n'es pas tombé, tu es dans une bonne situation. Tu es dans la faiblesse et Dieu veut agir chez les faibles. C'est très important. Mais lorsqu'on veut se battre pour s'auto-prouver qu'on est des bons chrétiens, pour s'auto-prouver qu'on est bien, pour s'auto-prouver qu'on n'a pas échoué son mariage. Alors on veut faire des choses charnelles pour s'auto-prouver des choses. Bien-aimés, c'est là qu'on va bien tomber dans une faiblesse humaine qui va entraîner le péché. Imitons notre Seigneur Jésus qui, à la croix, était content et il a dit, tout est accompli. Mais il a souffert aussi à la croix puisqu'il a dit, Père, voilà, tu m'abandonnes. Il a souffert. Mais en même temps, il avait le discernement que sa faiblesse apportait le salut à l'humanité. Ayons le discernement de Dieu par rapport à la faiblesse. La Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il y a un frère qui m'a appelé pour se plaindre. Ah oui, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, l'église qui dirige. Et puis, hier, il m'appelle, il dit, on a un problème parce que on a deux ou trois familles qui commencent à venir, mais chaque famille a 5 à 7 enfants. Et donc, si on a longtemps prié pour qu'il y ait des enfants dans l'église, mais là, si les trois familles doivent venir, il y aura plus des enfants que d'adultes. Moi, j'ai dit, mais tu l'as cherché. C'est ça, dans mon cœur, j'ai dit, mais tu l'as cherché. Tu croyais que Dieu n'agissait pas. Bien-aimé, non, il y a des moments où on croit que Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. C'est comme dans le psaume 126, les enfants d'Israël étaient tristes. Ils attendaient la délivrance de la captivité de Babylone. La Bible dit dans le psaume 126, quand Dieu les a délivrés, c'était comme un rêve. Tous les peuples disaient, Dieu est avec eux. Eux-mêmes, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Bien-aimés, la Bible dit que celui qui sème, hein, qui sème avec larmes, qui sème avec larmes, c'est écrit, psaume 126, celui qui sème avec larmes, moissonnera avec allégresse. C'est écrit, ce n'est pas moi, qui sème avec larmes. Souvent, nous regardons la télé, nous voyons les gens de Hillsong là-bas, avec la guitare comme les requins, et après le chanteur, il saute dans le public, on se dit, c'est ça la belle vie chrétienne. S'aimer dans l'amusement, bien aimé, non, la vraie vie chrétienne, c'est s'aimer soi-même. Tu vas te donner, on va cracher sur toi. Mais celui qui va cracher sur toi, dans un an, va devenir ton disciple pour prêcher l'évangile. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas se jeter devant le public, c'est ça. Non, bien-aimé. Il y a des moments où on chante dans les maisons de retraite, tu vois les gens qui te regardent presque endormis, bien-aimé. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Celui qui sème avec larmes moissonnera avec allégresse. Il faut accepter la faiblesse. Ce n'est pas facile, mais c'est la façon d'agir de Dieu, afin que seul l'or soit glorifié, l'or qui est dans le vase d'argile, pas le vase d'argile que nous sommes. Jésus a montré l'exemple. Quand nous acceptons de telles vies, nous devenons un ami du Seigneur. Parce que dans la faiblesse, c'est là qu'on peut méditer. Quand on est dans l'opulence, la prospérité, je ne suis pas contre ça. Je dis seulement qu'avec Dieu, il y a des temps. Il y a des temps qu'il permet de prospérité, il y a des temps qu'il permet de faiblesse. Il y a des temps qu'il permet de force, il y a des temps qu'il permet de faiblesse. Il va toujours alterner ça parce que nous sommes, nous, des compliqués. Il va toujours le faire pour nous maintenir à lui, nous maintenir comme ses amis. Si nous lisons l'histoire de David, nous verrons cela. Il bat Goliath après. C'est le succès. Après, il y a un temps de difficulté. On veut le tuer par Saül. Il y a des moments où il a encore un temps de succès. Il sauve la vie de Saül. Saül le bénit. Après, Saül vient encore le chercher. À un moment même, il a fait le fou pour être sauvé de la mort. Après, il a fait le fameux psaume 34 où il dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de ses détresses. » Alors, nous voyons une vie en dents de scie. Faiblesse, force. Faiblesse, force. Pourquoi? Parce que si Dieu nous laisse dans la force humaine, on va chercher à prendre sa place à lui, Dieu. Alors, ceux qui veulent nous présenter l'évangile comme un temps de « Ah, j'ai souffert pendant 5 ans, maintenant c'est mon temps de prospérité. » C'est faux, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Avec Dieu, ça sera faiblesse, force, faiblesse, force, faiblesse, force, afin que la gloire revienne à lui tout seul, afin qu'on ne puisse pas se reposer sur la force de l'homme. Bien-aimé, le problème, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on calcule, on dit, Seigneur, je vais être seulement faible sur la jambe. Dieu va te rendre faible sur le bras. Voilà. Notre problème, c'est ça. Seigneur, je vais être faible seulement que j'ai de grandes oreilles. Mais Dieu, lui, va te donner, permettre un gros nez. Et donc, on se dit, mais c'est pas ce que j'avais prévu. Mais si tu prévois ta faiblesse, donc ce n'est plus une faiblesse puisque tu l'as prévu. Donc, tu seras toujours étonné. Là où tu ne voulais pas être faible, c'est là que Dieu va permettre une sorte d'insécurité, une sorte d'inachèvement. Alors, on est surpris, on se fâche. Bien aimé, non. À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire. Acceptons les surprises de Dieu. Acceptons et reconnaissons que c'est permis pour qu'on soit toujours avec lui. Des amis. Dieu cherche des amis. Bien-aimé, pendant que je préparais ce message, je me voyais et je voyais les chrétiens en amis de Dieu. Quoi. Bien-aimé, un ami de Dieu a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Devenez des amis de Dieu. Il y a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas pour rien que Paul dit dans 2 Corinthiens 10, il dit « Les armes que nous avons sont puissantes pour renverser des forteresses. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance. » Un ami de Dieu a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Dieu lui-même dit « Est-ce que je peux faire quelque chose sans dire à Abraham, mon ami ?» Je ne peux pas, il faut que je lui dise. Voilà les amis de Dieu. Dieu ne fait rien sans en parler à ses amis. Mais pour être un ami de Dieu, il faut accepter la marche avec Dieu. Faiblesse, force, faiblesse, force. Quand on conteste dans la faiblesse, tu n'es pas un ami, tu veux être un concurrent. Soyons des amis de Dieu. Et nous verrons la gloire. Nous allons lire quelques passages de réconfort. Psaume 91. La Bible dit ceci, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est qu'un filet de l'oiseleur? C'est un filet qu'on lance pour attraper les oiseaux. Et quand les oiseaux sont pris dans ce filet-là, plus l'oiseau cherche à sortir de ce filet, plus il se fait retenir par le filet. C'est comme le sable mouvant. Plus tu cherches à sortir des sables mouvants, plus tu t'enfonces. C'est comme ça qu'est le filet de l'oiseleur. C'est un filet méchant. Plus tu cherches à te sortir de ça, plus ça te bloque. Il faut que quelqu'un te sorte de l'extérieur. Le sable mouvant, c'est la même chose. Plus tu cherches à sortir de ça par tes propres forces, plus tu t'enfonces. Il faut que quelqu'un te sauve de l'extérieur. Bien-aimés, acceptons que nous soyons sauvés de l'extérieur par Dieu et non par nos propres forces. Acceptons cela. Ça nous humilie, ça nous rabaisse, mais c'est ça le salut. C'est ça le salut de Yahvé. C'est lui le sauveur, ce n'est pas nous-mêmes. Il dit, c'est lui, verset 3, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Amen. La Bible dit dans Romains 8, au verset 18, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Il n'y a pas seulement la gloire à venir au ciel, mais il y a une gloire qui vient après chaque souffrance. Nous continuons. Au verset 31, que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. L'apôtre dit, on nous met à mort à tout moment. On est mis à mort à tout moment. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans toutes ces choses, Dieu contrôle. Il y a une mauvaise nouvelle que tu vas apprendre au téléphone, ça te met à mort. une information à la télé, ça te met à mort. Une décision à ton travail, ça te met à mort. Une attaque spirituelle, ça te met à mort. Mais l'apôtre dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toutes ces choses sont préparées pour manifester la gloire de Dieu, afin que Dieu soit admis comme le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Bien-aimés, que personne ne nous trompe. C'est ça la vie chrétienne. Pressée de toutes parts, mais non abattue. Celui qui veut sortir de ce schéma-là entre dans un faux évangile. Mais, en demeurant dans ce schéma, n'entrons pas dans la tristesse et dans l'abattement. Crions au Seigneur. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Réjouissons-nous en contemplant Jésus qui nous a précédés dans ce chemin. À un moment, on a touché son honneur en disant « Fais-nous des miracles ». Il dit « Je n'en ferai pas. Le seul miracle que je ferai, je mourrai le troisième jour, je ressusciterai. » Bien-aimés, acceptons ce schéma-là. Le seul miracle qu'on peut faire devant les païens, c'est accepter notre faiblesse qui est présentée à eux, parce qu'ils nous diront « Mais oui, mais tu bloques dans tel problème. Mais ta femme est malade, pourtant toi qui pries. Tes enfants ont des problèmes à l'école, toi qui pries. » Ça, c'est la mort. La mort de Jésus a été présentée, mais il y a eu aussi la résurrection. Et nous sommes la preuve de cette résurrection. Et Dieu te promet, dans Psaume 91, tu verras la rétribution des méchants. Ne sois pas dans l'abattement. Crie seulement au Seigneur. C'est ce que nous allons faire, bien-aimés. Jésus est vivant. Prions.